Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
On se retrouve pour la deuxième partie des experts avec Marie Vizeau, rédactrice en chef adjointe au Figaro, Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, et Laurent Vronsky, le DG d'Hervor, entreprise spécialisée dans les compresseurs. Marie, vous nous racontiez votre entretien avec Pierre Moscovici sur l'évolution des finances publiques françaises. Ce que j'en retiens, c'est que de toutes les trajectoires peu sérieuses pour nos finances publiques qui ont été transmises à Bruxelles au cours des 10 dernières années ou même des 20 dernières années et qui n'ont jamais été respectées, on est là face à une des trajectoires les moins sérieuses. Gilles Berset.
Écoutez, ce qui singularise la France, c'est que d'une part, on poursuit notre mouvement de baisse d'impôts, ce qui est une bonne chose. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Du côté des dépenses, par contre, c'est là où les choses ne vont pas. Il y a une modération des dépenses dans ce programme de stabilité qui est lié à l'engagement de réforme, c'est ce que a dit Marie précédemment, en particulier pour les pensions de retraite, ce qui suppose la mise en œuvre d'une réforme dont les discussions ne vont pas être très très faciles.
Paisible.
Je dirais pas être paisible, hein, fin 2022, début 2023. Donc il y a beaucoup d'hypothèses très fortes. C'est-à-dire, on est dans un pays où, contrairement à ce que beaucoup de gens ressentent, dans le pays qui en a sans doute fait le plus pour la défense du pouvoir d'achat des ménages, face à un choc, un prélèvement extérieur. Il faudra tôt ou tard se rendre à l'évidence si les prix de l'énergie sont stabilisés à un niveau élevé, compte tenu d'une productivité qui croît quasiment plus depuis 3 ans, eh bien, on devra connaître tous une baisse de pouvoir d'achat.
Oui, mais ce
moyen.
Qui est compliqué, Gilbert, c'est que vous voyez bien qu'il y a l'économie, les chiffres, mais il y a aussi la psychologie. Et en fait, au lieu, comme ça se fait quand même dans beaucoup de pays étrangers, au lieu de préparer les esprits à dire il va falloir faire des économies, il va falloir la frugalité énergétique, tout ça, ça se prépare. Nous, on est quand même encore dans un peu le dormez braves gens, l'État s'occupe de tout.
Les choses ont changé un tout petit peu, je trouve, dans la tonalité de la parole publique sur les 2-3 dernières semaines, avec beaucoup d'accent mis sur la sobriété, la frugalité énergétique, ce qui est nouveau, ce qui est beaucoup plus ancien dans d'autres pays. On peut prendre l'exemple des Pays-Bas, ça fait déjà 2-3 mois que ce discours est tenu de façon forte, avec des témoignages, ça peut sembler un peu caricatural, anecdotique, mais néanmoins une baisse de la consommation énergétique, ça c'est le premier point, et puis une sensibilisation des ménages au choc qu'on subit et qui aboutit à un prélèvement extérieur. Vous voyez, ce qu'on appelle, nous, les économistes, une détérioration des termes de l'échange.
Ce qu'il faut retenir, c'est que notre trajectoire des finances publiques, elle est beaucoup moins sérieuse que celle de la plupart de nos voisins. Concrètement, qu'est-ce que la France risque ?
Une sanction de marché. Alors, la France a toujours vécu derrière le paratonnerre de l'Italie, c'est clair. L'Italie est le pays, le grand pays européen qui fait le plus peur sur ce plan-là, en termes de finances publiques. Mais nous sommes, je dirais, qu'à, entre guillemets, 20 points de PIB de dette en dessous de l'Italie.
L'Italie dégage quand même des excédents primaires depuis très longtemps.
Absolument. Donc l'Italie est à 135, quand on est à 113, on commence à s'en rapprocher. Et là, il y a quelque chose d'inquiétant pour la France. Et la trajectoire, effectivement, du programme de stabilité est une trajectoire peu ambitieuse. Je dirais que, tôt ou tard, il faudra aborder la question des dépenses publiques d'une autre façon. Depuis 30 ans, on modère les dépenses. On essaye de modérer certaines dépenses publiques par une modération salariale qui aboutit à une paupérisation
totale
de la fonction publique, et non pas par une réduction des effectifs qui sont pléthoriques dans la fonction publique. Donc, on réussit le tour de magie, d'avoir des dépenses publiques fortes, une masse salariale publique très élevée, parce qu'il y a beaucoup de têtes.
Et des services publics
dégradés. Mais il y a peu de salaires, et donc une fonction publique démotivée, démobilisée. On a même de la peine à embaucher des gens pour fournir les postes dans la fonction publique.
Laurent Vronsky, cette trajectoire des finances publiques, des moins sérieuses parmi les peu sérieuses, en fait. Est-ce qu'on arrive encore à y croire
Dans la première partie de l'émission, on a parlé de la raréfication du bon sens. Ça en fait partie. Je rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, il y a des esprits éclairés qui nous expliquaient que la dette, ça n'a pas d'importance. La dette, elle est perpétuelle. Il n'y a pas de problème. On peut s'endetter, on s'endette, et puis on finira peut-être par la payer un jour. Et il y en a même qui ont même dit, finalement, peut-être qu'on ne devrait même pas la payer. Donc c'est pour dire. Hein.
Enfin, sauf que les sanctions, elles tombent jamais.
Non, mais le problème.
Le problème, c'est qu'on nous dit, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça.
Mais ça, c'est pas un argument, parce que je vais vous dire, Emmanuel.
Oui, bah oui.
Le problème, c'est que le jour où ça arrive. Là, vous avez la moitié de gens qui vous dit « je vous l'avais dit » et l'autre moitié qui dit « ah ben, on pensait pas que ça allait arriver ». Simplement, la dépense publique, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Et à la limite, si on avait, je dirais, accumulé pratiquement 3000 milliards de dettes pour moderniser le pays,
et oui.
pour financer la transition énergétique, pour faire, je dirais, de la recherche dans le médical, pour améliorer l'éducation, on dirait « bon ». C'est un investissement et quelque part on va avoir un retour sur investissement. Alors, je m'exprime en termes économiques entreprises. Mais là c'est pas le cas. Je veux dire, on n'arrête pas de s'endetter pour payer les fins de mois. Et une fois que l'argent est dépensé, il est dépensé, c'est pas de l'investissement. Donc ça, je trouve ça très préoccupant. Maintenant, sur la question que vous posez sur, je dirais, le psyché français, la France, elle souffre du mal puma. C'est-à-dire, tout le monde est toujours d'accord, oui, mais c'est projet utile, mais ailleurs. Tout le monde est toujours d'accord quand c'est le voisin qui fait. Mais, par exemple, un sujet que je trouve très préoccupant, et on l'a évoqué ensemble il n'y a pas si longtemps, je pense vraiment qu'il va y avoir des pannes de courant importantes. Je ne vois pas comment, avec moins de 50% des centrales nucléaires qui fonctionnent aujourd'hui, une utilisation croissante, je ne vois pas comment et par quel miracle on va avoir un hiver serein. Mais ça aussi, c'est pas arrivé la semaine dernière. C'est le fruit de 30 ans de négation de l'énergie nucléaire, de choix relativement hasardeux. On a d'un côté réduit la production d'électricité, de l'autre côté, on l'a encouragé. Donc je pense que si vous voulez, malheureusement, les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Et là, ça va être l'heure de vérité. Ce que je souhaite, je pense qu'il va y avoir des virages stratégiques et très difficiles. Je souhaite que ça se passe de manière relativement sereine et surtout au niveau social.
Ça n'est quasiment jamais le cas, Laurent. Enfin, je ne sais pas, Gilbert, Marie. Est-ce qu'il n'y a pas d'exemple de pays qui ont fait les réformes dont on dit qu'elles sont de bon sens, comme ça, calmement, tranquillement, sans fièvre, soit sur les marchés, soit sans fièvre sociale. Il faut avoir l'épée dans le dos.
Tranquillement, non. Mais il y a des pays qui les ont fait, des grands pays.
Oui, mais avec, avec le FMI
non,
à la porte.
Non, on peut penser à l'Allemagne.
Réforme haute.
Voilà. Je veux dire, l'Allemagne connaissait une situation des finances publiques pas meilleure que la nôtre il y a 25 ans. Et puis, se sont orientés sur une autre trajectoire que la nôtre. Voilà. Là où la dette publique allemande baissait, la nôtre continue à augmenter. Donc maintenant, l'écart est absolument considérable.
Oui, enfin, c'est l'autre extrême, ouais. Gilbert. Quand vous voyez l'état de délabrement de l'économie allemande et de l'Allemagne en général aujourd'hui, vous vous dites que là, pour le coup, ils sont sans doute allés trop loin dans l'autre sens par rapport à la France.
Peut-être, mais état de délabrement, faut quand même pas exagérer.
Regardez les infrastructures allemandes.
Je suis d'accord avec vous, mais un pays qui a entre 8 et 9 points de PIB d'excédent de balance courante, un pays qui a 3% de chômage, etc. Bon, faut quand même.
C'est un pays qui investit pas assez.
On est d'accord. Il y a des défauts, c'est pas un exemple parfait, c'est clair. Mais néanmoins, avoir une compétitivité aussi élevée, avoir une situation sur le marché du travail aussi forte et des finances publiques aussi bien tenues, on peut regarder de ce côté-là un petit peu, sans se dire que, le tableau est complètement bon. Mais il y a des pays qui ont su réformer sans avoir l'épée dans le dos.
Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un... Est-ce que vous craignez un cocktail explosif, marché financier moins accommodant, taux d'intérêt plus élevé, crise sociale liée au pouvoir d'achat, etc. Est-ce que il y a un cocktail comme ça qui pourrait nous péter à la figure dans les mois qui viennent ?
Taux d'intérêt plus élevé. C'est certain. Le discours des banques centrales sur ce plan-là, d'ailleurs, est clair.
Je crois qu'il est très clair.
Je veux dire, leur mandat, et la lutte contre l'inflation et la stabilité des prix, c'est-à-dire 2% aller vers une cible d'inflation de 2%. Leur discours est très très clair, il a été dit, il a été répété. Donc voilà, c'est clair, et le nouvel instrument de politique monétaire, l'IPT, a été présenté immédiatement comme ne devant pas être considéré comme, je dirais, une béquille pour tous les dévoiements en termes de finances publiques. Donc le discours a été très 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 clair sur ce plan-là. Nous connaîtrons une baisse des taux d'intérêt, un renchérissement de la dette publique sur les prochains trimestres. C'est certain, la crise sociale, certains en rêvent et la nourrissent. C'est un risque particulièrement
Marie Vizeau, avec tous vos capteurs de journalistes économiques, vos liens avec les syndicats, les entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a un climat explosif qui menace finalement notre pays à l'horizon de l'hiver ou du printemps.
Non mais l'étincelle qui peut potentiellement faire exploser effectivement le climat social, très souvent on la voit pas venir, on la sent pas venir. Ouais. Ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est pas impossible, mais on ne sait pas quel sera le petit effet qui fera prendre. Les revendications salariales sont importantes dans les entreprises, tous les chefs d'entreprise le disent, hein. À peine ont-ils clôturer leur NAO, leurs augmentations annuelles, que les syndicats demandent déjà à les rouvrir. Donc oui, il y a un climat qui est un peu pesant, même si on ne sait pas comment il va se traduire dans les mois à venir. Il faudra faire attention à la rentrée. Le gouvernement le sait, les chefs d'entreprise le savent. Voilà dans quoi on est pour l'instant. Et peut-être juste rappeler pour finir sur cette histoire de finances publiques. Les téléspectateurs le savent, mais pour dire, il faut vraiment faire attention. Tout programme du quinquennat qui est présenté en début de mandat n'est jamais tenu. Or là, on commence avec une trajectoire peu ambitieuse. C'est-à-dire que toujours...
Alors, peu ambitieuse et trop optimiste.
Oui, et c'est tout le côté orthogonal du truc. Hein. C'est compliqué, la période est compliquée. Mais chaque président prévoit toujours le retour à l'équilibre des finances publiques à la fin de son quinquennat.
Non, mais c'est ça le problème. C'est
à chaque fois, on prévoit un zéro. On prévoit 3%. Où est-ce qu'on va terminer? Où est-ce qu'on va terminer?
Et à chaque fois, ça passe, donc on se dit...
Il va falloir faire très attention parce qu'on ne prévoit pas la stabilité pour la fin du quinquennat.
Alors Gilbert, vous m'avez offert une transition absolument formidable en parlant de la réforme allemande du marché du travail, parce que je voudrais qu'on évoque finalement ce qui est maintenant officiellement le modèle de réforme de notre assurance chômage, qui est le modèle canadien. Hein. C'est Olivier Dussopt qui a dit qu'on s'inspirait clairement de ce qui se passe là-bas. Alors vous qui êtes un grand spécialiste du marché du travail, comment ça fonctionne l'assurance chômage au Canada?
Déjà, faut partir du constat que la France est un pays singulier pour l'équilibre sur le marché du travail, puisqu'on est le seul pays européen à associer de très fortes difficultés de recrutement et un taux de chômage encore très élevé. Vous voyez, il y a des pays dans lesquels il y a plus de chômage et beaucoup de difficultés de recrutement, il y a d'autres pays dans lesquels il y a beaucoup de chômage et assez peu de difficultés de recrutement. Nous, on a les deux. Ce qui témoigne d'un mauvais fonctionnement du marché du travail et d'une volonté de retour à l'emploi qui, pour certaines personnes, est peut-être trop faible. Bon, néanmoins, faut moduler le propos. On connaît aujourd'hui des taux d'emploi comme on n'en a pas connu sur les 60 dernières années. Hein, donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on a encore besoin d'emploi. Il y a encore beaucoup de difficultés de recrutement. Alors, dans ce contexte-là, s'inspirer de la logique du modèle canadien consistant à dire quand la conjoncture du marché du travail est très forte, ce qui est le cas, est très bonne et très forte, hein, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien... l'indemnisation peut être plus courte par rapport à d'autres périodes où les difficultés pour trouver un emploi sont plus fortes et où les périodes d'indemnisation pourraient être plus longues. Ça n'est pas absurde. Mais je voudrais mettre en avant peut-être une autre direction qui devrait être davantage associée à celle-là, en tout cas. C'est bien sûr une mobilisation beaucoup plus forte des services publics, et je pense en particulier à Pôle emploi, pour accompagner les chercheurs d'emploi dans leur recherche d'emploi et dans la réalité.
C'était la conclusion d'un rapport du Conseil d'analyse économique, voilà. Hein, qui disait il y a à la fois un manque de savoir recruter de la part des entreprises.
Il y a un manque de savoir placer. Il y a 55 000 agents à Pôle emploi. Il faut quand même signaler que ce n'est pas, vous voyez, une tête d'épingle, hein, Pôle emploi. Ce n'est pas un tout petit service public. Bien, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que l'action de Pôle emploi pourrait être plus forte et déterminée, avec des incitations à la fois positives et négatives, pour accompagner les chômeurs dans cette recherche d'emploi. Donc vous voyez, je dirais que cette mesure est bonne, la mesure envisagée par le ministre du Travail, elle est bonne. Il faut, à côté de ça, en avoir d'autres et se mobiliser complètement pour ne pas rester dans l'aberration de cette simultanéité entre des difficultés de recrutement et un taux de chômage encore massif en France.
Laurent Vronsky, vous attendez quoi de la réforme du marché du de l'assurance chômage?
Je vais déjà répondre sur Pôle emploi. Je pense qu'il serait intéressant de faire une statistique auprès des chefs d'entreprise, donc les gens comme moi qui signent les contrats de travail. C'est quand la dernière fois que vous avez contacté Pôle emploi pour trouver du personnel? Moi, je peux vous répondre, c'était il y a 15 ans.
C'est-à-dire que depuis 15 ans, vous...
Depuis 15 ans, on se débrouille tout seul avec nos petits bras, et moi, je suis en situation de recrutement perpétuel. Vous voyez, j'ai signé un contrat de travail il y a deux semaines, et je vais sans doute en signer la semaine prochaine. Et donc...
Et vous passez jamais par Pôle emploi?
Jamais. Mais c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que à chaque fois qu'on essaye de le faire, il y a on se pose vraiment la question. Enfin, je vais être peut-être un petit provocateur, mais on se pose vraiment la question de savoir s'ils ont lu notre annonce.
Bon. Alors, il y a quand même là, pour vous répondre, il y a quand même une enquête qui est faite chaque année sur le taux de satisfaction des chefs d'entreprise vis-à-vis de Pôle emploi. Ça tourne quand même autour de 70-75%.
Manuel, moi, je ne fais pas le procès de Pôle emploi. Ouais. Je vous dis, moi, je rencontre, puisque j'ai une casquette syndicale, puisque je suis secrétaire général de Croissance Plus, comme vous le savez. Donc, je rencontre des chefs d'entreprise toutes les semaines. Donc, je ne lis pas des études. Je rencontre des gens comme moi qui signent les contrats de travail.
Et ils contournent Pôle emploi.
Il y a très peu de gens qui font appel à Pôle emploi. Donc, je n'attends pas, si vous voulez, le salut de Pôle emploi. Maintenant, encore une fois, c'est du bon sens. Je veux dire... Il faut mettre le dogme de côté et le bon sens de l'autre. Quand les choses vont bien, qu'on ait des couvertures sociales, des airbags sociaux qui se réduisent, c'est du bon sens. Et quand les choses vont pas bien et qu'on a besoin d'aide et qu'elles s'élargissent, c'est aussi du bon sens. Par contre, si on regarde ça avec dogmatisme et qu'on considère que c'est un totem social et qu'on doit surtout pas aborder le sujet, ben je dirais dans 5 ans, on sera au même point. Maintenant, sur les chiffres effectivement historiques, je pense aussi qu'on est au cœur du papy-boom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pyramide des âges en France fait qu'il y a une accélération du départ des gens qui ont entre 60 et 70 ans, et tout le monde peut le voir. On le voit dans les commerces, dans les entreprises, etc. Donc il y a un vide qui se crée mécaniquement. Mais effectivement, il y a eu aussi des grands débats très académiques sur lequel est en France le bon taux structurel du chômage. Et on en discute encore. Mais la France s'est habituée à des taux de chômage très élevés, avec des airbags sociaux aussi très généreux. La question qu'on se pose, si on reboucle avec le sujet d'avance, c'est combien de temps est-ce qu'on pourra se le permettre? Parce que le jour où on tire le rideau et on vous dit on ne peut plus, là, il n'y a plus de discussion possible. Et même si vous avez tout le monde dans la rue.
Marie Vizeau, sur ce sujet... Alors Gilbert Sept appelait ça pudiquement des doutes sur la volonté de retour à l'emploi. Est-ce qu'on a une idée, je ne sais pas, hein, je vous pose la question à vous, mais est-ce qu'on a une idée de la part de responsabilité de cette faible volonté liée peut-être à un des systèmes d'incitation insuffisants pour reprendre un travail? Moi, je suis toujours mal à l'aise avec ça, parce que je me dis, mais ça représente... C'est quelle ampleur
À ma connaissance, on ne sait pas quelle ampleur ça peut prendre. Tout ça,
on ne peut pas répondre.
On ne peut pas répondre à cette question, mais... Peut-être qu'on peut dire, et pour revenir à votre question de départ sur ce système canadien qui consiste quand même à dire quand ça va bien, quand l'économie va bien, que donc il y a des jobs à disposition, que les entreprises recrutent, il n'est pas anormal de se dire que certes, on continue à indemniser les gens qui en ont besoin et qui sont en recherche d'emploi, mais peut-être pas aussi longtemps qu'on le ferait en période compliquée, c'est-à-dire que les jobs sont à disposition, donc c'est très incitatif finalement comme système. Quand ça va pas, on revient à un système où on indemnise les gens sur une durée qui a été définie. Donc c'est à ça que réfléchit le gouvernement français. Il faut toujours faire attention aussi avec les Français qui sont capables de créer des usines à gaz. Mais voilà comment ça marche au Canada, qui est de dire vraiment, adaptons-nous aux besoins des entreprises en fonction de la conjoncture.
Mais la modulation, elle se fait de façon assez simple, ou c'est quoi? C'est en fonction de la...
Alors, c'est pas très simple, et en plus, je crois qu'ils intègrent une partie régionale. C'est-à-dire que dans les zones sinistrées, que dans les zones d'emploi, les villes où il y a des jobs. Mais le fait est que 40% des Canadiens restent moins d'un mois au chômage et 7% sont des chômeurs de longue durée. C'est quasiment, presque, la proportion inverse des chômeurs français. J'exagère un peu. Mais tout ça pour dire que quand on incite intelligemment, alors encore une fois sans tomber dans des usines à gaz, qu'on sait s'adapter à une réalité, ça peut fonctionner. Après, je ne connais pas suffisamment la précarisation de l'emploi au Canada. Il me semble qu'elle n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Donc finalement, ça vaut le coup peut-être de se plonger de s'intéresser à ces systèmes.
Gilbert Sen, concrètement, ça va prendre quelle forme chez nous ? On va réduire la durée d'indemnisation.
On va réduire la durée d'indemnisation. Enfin, c'est ce qui est envisagé quand le marché du travail est tendu et que des difficultés de recrutement sont signalées par les entreprises. Je voudrais juste évoquer, par exemple, un symptôme d'un fonctionnement du marché du travail qui est quand même insuffisamment, je dirais, performant en France. Je regardais il y a peu de temps une carte des taux de chômage par bassin d'emploi, par département, par bassin d'emploi, en France. On voit que, côte à côte, on peut avoir des bassins d'emploi ou des départements avec un taux de chômage élevé et des départements qui ont des taux de chômage très faibles. Et puis, quand on compare cette carte aujourd'hui avec la même carte il y a 20 ans, ben on voit qu'il y a une ressemblance très très forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, non seulement il n'y a pas de mobilité instantanée, mais même sur deux décennies, il n'y a pas de mobilité. Vous voyez ? Même sur deux décennies, les bassins d'emploi avec des bas taux de chômage sont à côté de bassins d'emploi avec des forts taux de chômage. Il y a là une difficulté majeure. Alors, il y a plein de choses derrière le projet qui a été avancé par le président, par exemple, d'essayer d'inciter une autre logique dans les minima sociaux et d'associer une logique de devoir à une logique de droit, va un peu dans cet esprit de mobilisation. Mais par ailleurs, il faut se dire, est-ce que d'autres politiques ne sont pas responsables de ce manque de mobilité, même géographique, du travail ? Par exemple, les politiques de logements sociaux. Quand quelqu'un a un logement social, il ne va surtout pas déménager se retrouver dans une file d'attente.
Mais même quand quelqu'un est propriétaire et qu'il se retrouve planté dans un coin où l'immobilier a beaucoup baissé,
il n'a pas réalisé cette perte. Il n'a pas envie de réaliser cette perte et d'avoir des moyens insuffisants pour acheter un endroit où au contraire les tensions sont fortes. Donc on est dans cette situation, mais voyez, il est étonnant de constater la ressemblance entre cette carte, les taux de chômage par bassin d'emploi aujourd'hui, avec celle d'il y a 20 ans, et cette juxtaposition, cette proximité permanente entre des zones tendues et des zones, au contraire, détendues. Donc là, il faut que ça change. Maintenant que le taux de chômage moyen baisse et qu'on a la chance de frôler les 7%. Donc il faut absolument profiter de cette opportunité pour se dire il y a beaucoup de choses à changer.
Bon, il faut que ça change, voilà, ça fait beaucoup d'années qu'on... On finit une saison des experts en se disant il faut que ça change, voilà, et puis on entamera la prochaine saison en se disant que ça va peut-être changer, voilà.
Mais il vaut mieux penser le changement que changer le pansement.